Je disais la blague pendant la pause, où est allé tout ce monde qu'on voudrait embaucher dans le secteur de la santé, l'éducation, la DPJ encore ce matin, on l'a vu. Puis là, on a des plans. Supposément que cet après-midi, 13h, un plan pour les infirmières, infirmières auxiliaires. Le docteur Carman, ça vient qu'un plan pour la DPJ. Mais on manque de monde partout.
Oui, on manque de monde partout, effectivement. C'est intéressant, ta petite... ça, c'est beau dommage, hein?
Non,
ça,
Harmonium.
Harmonium, oui, mais voilà. Continue, Luc.
Non, mais ça, c'est la job à Richard.
T'es inspiré ce matin, Paul. Oui, pénurie de main-d'œuvre. On a l'impression que c'est un problème insoluble, mais je pense qu'on part d'une fausse prémisse. C'est-à-dire qu'on a quoi, à peu près 300 000 chômeurs il manque à peu près 150 000 postes à combler. Alors, tu dis, mais quel est le problème, dans le fond? Mais en même temps, je dirais, puis il y a un courant chez les économistes plus de gauche qui veut qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, oui, mais pas dans tous les secteurs d'activité. Mais ce qui est clair, c'est que le gouvernement, pour régler certains problèmes criants, tu l'as dit, infirmières, santé, DPJ, devra penser en dehors de la boîte. Parce que c'est pas vrai que toujours plus d'infirmières, toujours plus de médecins va nous permettre de régler tous nos problèmes. Un exemple concret là, dans le domaine de l'accès à un médecin de famille. Hier, il y a une médecin de Québec qui signait une lettre ouverte dans le Devoir qui interpellait le ministre de la Santé pour lui dire, un, c'est devenu une risée l'accessibilité à un médecin de famille au Québec. Deux, il faut arrêter de penser que l'accès aux services de première ligne repose sur le médecin ou repose sur les médecins. Le médecin, c'est un acteur parmi tant d'autres dans les services qui sont offerts aux citoyens en matière de santé. Par exemple, le pharmacien, la super infirmière, ça peut être le travailleur social ou la travailleuse sociale. Alors, ça commande une révolution sur la façon dont on conçoit les services. Alors, moi, ce que je dis par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, la solution facile, c'est d'augmenter les salaires pour embaucher toujours plus. Mais on fait juste creuser notre tombe en faisant cette façon.
Et en plus, c'est la même stratégie pour la DPJ, l'éducation et la santé. Bon, évidemment, c'est la stratégie aussi exigée par les syndicats, mais là, on en voit les limites. T'sais. Même, il y en a qui se posent la question de savoir, dans le cas des médecins, est-ce que le fait d'avoir augmenté les salaires, c'est pas traduit par une diminution du temps de travail, puisque le médecin se dit, ben, avec le même salaire, je pourrais juste travailler moins de jours. Pour les infirmières, c'est pas rien des augmentations. Hein. Dans la dernière convention collective, c'est 30% d'augmentation de base là, sur 3 ans, et dans les premiers échelons, c'est 38% d'augmentation. Une infirmière à l'échelon 18, donc, je pense que ça équivaut à 18 années d'ancienneté. On me corrigera si je me trompe. Mais c'est 100 000 $ à peu près, le salaire, tel qu'inscrit à la convention collective, sans les heures supplémentaires. Donc, si elle fait un 30 % d'heures supplémentaires, on dit qu'il y en a beaucoup dans le domaine de la santé. En tout cas, si elle veut en faire.
Et surtout la dernière année de la pandémie.
Ben oui, ça peut être même.
Il y a des infirmières qui sont allées chercher des salaires de 100 000, 120 000. Là.
Bon. Puis pour l'État, le coût complet, c'est autour de 200 000 parce qu'il y a la question de tous les avantages sociaux. Et ça, c'est un job difficile, c'est un job qui exige de la présence, qui empêche de prendre des congés pour ceci, pour cela. Tu peux pas moduler ton horaire. Néanmoins, c'est un job auquel tu as accès avec un DEC. Donc, c'est un job à 120, 130 000 $ avec un DEC. Je pense pas qu'on ait un problème de salaire. On n'a pas un problème non plus de disponibilité de main-d'œuvre. Il semblerait qu'on a plus d'infirmières que dans le reste du Canada. On n'a pas un problème de formation. Il paraît qu'après des années où ça n'a pas fonctionné, maintenant, il y a assez d'infirmières qui sont formées à chaque année. Fait que là, il va falloir faire les solutions difficiles. Pas la solution qui s'annonce cet après-midi, là, genre, on va vous redonner des primes, on va vous redonner.
Non,
on va finir par vous avoir. Oui, ben, c'est correct, mais ça va durer combien de temps? Puis, si elles partent quand même, alors, tout le monde dit la même chose. Sont débordés, travail supplémentaire obligatoire. Dans l'éducation, c'est pareil. Là, je ne veux pas juste prendre tout le temps les infirmières. Là, elles ont l'impression de ne pas avoir d'autonomie. Elles ont l'impression que elles sont impuissantes face aux problèmes qu'elles rencontrent. Elles sont obligées d'appliquer des recettes, en éducation, je parle, des recettes qui sont approuvées par 8 niveaux. Alors, la solution, c'est autonomie des travailleurs, puis c'est décentralisation des systèmes. Donc, il faut qu'une directrice d'école, en collaboration avec sa profession enseignante, soit capable de prendre des décisions. Il faut qu'un directeur d'hôpital, en collaboration avec les médecins et les infirmières, soit capable de prendre des décisions. Et ça, ça prend des années à implanter parce qu'on est dans la culture inverse.
Ouais, mais ça, c'est pour la santé. Mais prends d'autres secteurs d'activité, par exemple. Si tu es dans le secteur manufacturier, les chefs d'entreprise qui nous écoutent, ils disent, ben oui, c'est bien beau tout ça, là, mais par exemple, avoir recours, par exemple, à la robotisation pour le secteur manufacturier, tu as moins accès à la main-d'œuvre. Alors, tu fais quoi, dans le fond? Il faut que tu compenses. Avez-vous vu l'article la semaine passée?
Ah, ben,
les robots épiceries, dans les restaurants, les caisses autonomes.
Maudite caisse autonome.
Oui. Les caisses autonomes dans les restos.
T'aimes pas ça?
Non, vous n'avez pas déposé la chose à
oui,
bonne place.
Sais.
Moi, c'était méchant comme Elvis Gratton. Là. À la cinquième fois qu'elle me dit pas déposé la place à bonne chose. Hey!
Écoute, on pourrait faire le poil un segment sur les caisses autonomes. Puis je vais pas nommer la bannière, mais il y en a une où c'est pas convivial, mais vraiment pas là. Je sais très
oui,
bien de quoi
celle-là.
Oui, c'est celle-là. Je sais très bien de quoi tu parles. Non, mais il y a des secteurs. Par contre, ça va demeurer problématique la pénurie de main d'œuvre. La restauration, l'hôtellerie, les secteurs de services. Ça, se servir ton assiette, ben le robot va venir te servir ton assiette, là, mais faire un lit, là, c'est pas le robot qui va faire le lit et qui va faire le ménage de la chambre. Alors là-dessus, définitivement, il y a des secteurs qui, selon moi, vont demeurer problématiques encore bien des années, malgré l'augmentation des salaires
oui,
qu'on pourrait consentir.
Moi, je parle, OK, parfait. Il y a des domaines dans lesquels il y a de l'automatisation possible. Il y a les services financiers, par exemple. Hein. Maintenant, on ne va plus au comptoir.
Exactement.
On fait toutes nos transactions
tout
nous-mêmes.
Fait.
Mais dans les domaines où c'est du un pour un, puis c'est des domaines où ce sont des femmes qui sont en majorité.
Oui.
Éducation, santé, DPJ. Ouais. On a un méchant problème. Ouais, et j'entends pas le gouvernement dire... On va faire face à ce méchant problème-là.
Mais l'autre élément...
Autrement qu'en disant on va augmenter les salaires.
Oui, je suis d'accord, mais l'autre élément sur lequel le gouvernement peut jouer, c'est la fiscalité. D'ici 2023, c'est quand c'est dans deux ans, il y a 6 000 départs à la retraite. Il y a combien de pourcentages de Québécois qui ont accès à un généreux régime de pension? Plusieurs, quand même. C'est pas une majorité, je dirais autour de, mettons, 30 %, autour de... Si tu es à la retraite puis tu as un salaire assuré de 50 000 à 60 000 $ par année, c'est quoi l'intérêt que tu sois à retourner sur le marché de l'emploi alors que tu as quoi, 55, 58 ans? Le gouvernement doit impérativement jouer sur la fiscalité. Il le fait déjà avec les crédits d'impôt pour faciliter le retour au travail des 60 ans et plus, mais l'incitatif n'est pas suffisamment convaincant. Combien de gens nous disent « Moi, je voudrais bien retourner sur le marché de l'emploi 2-3 jours semaine, mais oublie ça! » Tout le temps supplémentaire que je fais s'ajoute à la pension ou au salaire que je reçois, puis ça vaut pas la peine d'aller travailler. En fait, je travaille puis je m'en mets pas d'impôt, je fais juste de payer de l'impôt. Fait, clairement, là, le gouvernement peut jouer sur cette dimension-là liée à la fiscalité. Il y a plusieurs, comment dire, leviers, mais je sais
pas. Est-ce que le gouvernement...
Je sais pas s'il va vouloir aller jusque-là.
Ouais, voilà. Est-ce que le gouvernement fait preuve d'une capacité à changer la façon de faire? Pour l'instant, on l'a pas vu. Pour l'instant, on ne l'a pas vu. Puis moi, je pense qu'on arrive là dans les derniers milles de la façon qui consiste à dire on va donner des primes, on va donner des salaires. Et prendre à bras le corps l'organisation du système de la santé. Il a dit une loi mammouth. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dans la mammouth. Et le système d'éducation. Hey, j'ai demandé un jour à un président de syndicat pourquoi est-ce que les professeurs, les enseignantes sont payés pareil d'un bout à l'autre du Québec, entre Montréal et Gaspé. La vie pour une infirmière, une enseignante à Montréal est genre 1,7 fois plus cher qu'à Gaspé. Pourquoi c'est le même salaire?
Ben, les syndicats. Écoute, la logique syndicale, il va falloir à un moment donné...
Si tu modifies un endroit d'une pièce, avec toutes les conventions collectives qui sont mesurées les unes par rapport aux autres, puis en plus à ça, tu rajoutes l'équité salariale, ça prend des mois et des mois et des années de négociations.
Là, Paul, on ne veut pas donner l'impression qu'il n'y a pas de solution à nous entendre parler, là, mais honnêtement, c'est peut-être ça que ça donne comme impression. Mais il y a un défi. Regardez, là, on a vécu la création de l'État-providence dans les années 60. Là on est là-dessus là, depuis tout ce temps-là. Là, on vient de frapper un mur. Comme société, là, j'ai jamais senti qu'on avait des défis aussi importants à relever
tout à fait d'accord avec toi.
Que celui-là. Il y a les changements climatiques, mais au-delà de ça, la pénurie de main-d'œuvre, ça va plomber la capacité qu'on a de créer de la richesse. Ça va hypothéquer les projets d'agrandissement d'entreprise, par exemple. Alors, il faut vraiment sortir en dehors de la boîte. Il faut penser différemment par rapport à tout ce qu'on a fait depuis, quoi, 30, 40 ans, clairement. Mais il y a de l'espoir. Mais on n'est pas les seuls sur la planète à vivre ça. L'immigration non plus, on n'a pas parlé.
Oui, mais c'est ça. Mais attends, la solution facile de la Chambre de commerce, on va rentrer beaucoup, beaucoup plus d'immigrants. Non, c'est pas une solution évidente, là. L'adéquation... Oui, il faut rentrer des immigrants.
La requalification des travailleurs.
Voilà. S'il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas d'intégration, s'il n'y a pas d'adéquation de personnes postes, évidemment, c'était ça le projet en faisant le projet de M. Legault sur l'immigration, mais ce projet-là, il marche au ralenti. Alors, ce n'est pas non plus la solution. La solution, c'est la réorganisation des entreprises de l'État.
Musique.
Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter.
Où sont-ils tous allés? On veut bien la PCU, là, mais il y a plus que ça quand même. Là. Après avoir parlé philosophie, état, pensée en dehors de la boîte, après la pause, deuxième sujet, le cash. Allons-y avec la Couronne Nord.